nous donne des pistes. Notre réflexion, on est dans un temps en église pour ceux qui seraient là de visite ou de passage ou pour la première fois. On est dans un temps en église où on travaille sur la vision de Dieu pour cette nouvelle saison qui est devant nous. On sent que le Seigneur veut faire des choses nouvelles. On est dans une étape nouvelle qui commence depuis quelque temps dans la vie de cette église. Et depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin, on prend vraiment ce temps pour essayer de discerner quelle est la vision de Dieu pour son Église. Et on a chaque mois un thème particulier. Ce mois de mars, c'est le thème du témoignage, de comment être des témoins du Christ au-delà de notre Église, des témoins du Christ là où il nous a placés, dans la société, dans nos familles, dans partout. Et dans ce cadre, voilà, on a eu hier cette journée de travail, et on a la joie d'avoir Francis Daugnon. Alors pourquoi est-ce que on a invité particulièrement Francis Daugnon sur ce terme? Parce que c'est vraiment son cœur. Il est pasteur de la Fédération Baptiste, qui est la fédération à laquelle appartient notre Église. Et il a été pasteur à Paris pendant combien, 10 ans ou 20 ans même, oui. Il était pasteur à Paris, à Belleville, à l'église réformée de Belleville, si certains connaissent. Et puis depuis 20 ans maintenant, il est en Normandie, où il a vraiment fait un travail d'implantation d'église et voilà, il nous en a pas mal parlé hier. Je ne sais pas si tu en parleras encore aujourd'hui en illustration de ton message, mais en tout cas, il y a des choses encourageantes qui se passent. La Normandie est pas. Moi, on a été pasteur 2 ans à Cherbourg. C'est pas une terre facile pour l'Évangile. Et je crois que voilà, c'est encourageant de voir toutes ces églises qui naissent, se développent en réseau autour de Lisieux, Rouen et cette région-là. Et puis, il est aussi donc à mi-temps en tant que permanent de la Fédération Baptiste pour la question du développement, c'est-à-dire de l'implantation d'églises un peu partout en France et au niveau aussi de la revitalisation des églises qui ont besoin d'être redynamisées aussi. Et donc il a tout cet axe aussi et on est très heureux donc de l'avoir pour ce week-end, qu'il ait accepté de venir parmi nous, et on est très heureux encore de t'entendre, Francis, pour la prédication. Alors je t'invite, on va peut-être juste prier, et puis il a demandé si on... Voilà, je lirai le texte biblique et je te laisserai la parole. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole, qui est une parole vivante, parole toujours d'actualité. Ces écritures que tu as inspirées, Seigneur, par ton Saint-Esprit, nous prions qu'elles viennent encore être imprimées dans nos cœurs par ton Saint-Esprit, et qu'à travers cela, Seigneur, tu nous aides à la mettre en pratique. Seigneur, je te prie maintenant pour Francis, je te remercie pour son ministère, pour sa venue parmi nous, pour ce qu'il nous a déjà apporté hier, et je te prie que tu l'utilises encore maintenant pour transmettre ta parole avec vérité, avec assurance, et selon ce que tu auras mis sur son cœur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais lire le texte donc, de Néhémie, c'est ça, hein? Néhémie chapitre 3, versets 1 à 5. Je ne sais pas si on peut l'afficher aussi. Chapitre 3, versets 1 à 5. Ça va, vous trouver? C'est bon, super. Éliashib, le grand prêtre, se mit au travail avec ses collègues, les prêtres, et ils se chargèrent de la reconstruction de la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants, puis ils continuèrent à réparer la muraille qu'ils consacrèrent jusqu'à la tour de Méa, puis jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'eux travaillaient les habitants de Jéricho. À leur suite, c'était Zakour, fils d'Imri, qui bâtissait. Les descendants de Sénar reconstruisirent la porte des poissons. Ils en firent la charpente et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, Mérémoth, fils d'Uri, petit-fils d'Akots, travaillait. À sa suite, c'était Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshézabel, et plus loin de Sadoc, fils de Baana. Venaient ensuite les habitants de Tekoa, mais leurs notables refusèrent de travailler sous les ordres des maîtres d'œuvre. Je suis pressé d'entendre ce que tu vas nous tirer de ce texte.
Moi, je suis content que tu aies fait la lecture, tu vois. Et j'ai été gentil avec toi parce qu'il y a plein de noms imprononçables dans cette liste. Il s'en est bien sorti, non? Vous trouvez pas? Ouais, c'est super. Alors, ouais, il a dit que j'étais 20 ans pasteur à Paris, 20 ans en Normandie. Et je suis sûr qu'à certains d'entre vous, ils disent, mais il a quel âge ce gars? Ben, je vais pas vous le dire. J'ai décidé de rester jeune jusqu'à la fin. Voilà. Écoutez, c'est vraiment une joie d'être là. Erwan est passé, n'est-ce pas, il y a quelques semaines, je crois, récemment. On travaille ensemble. J'aime beaucoup Erwan. Je l'apprécie comme un frère très engagé. Très courtement, oui, sur les églises du réseau, je dirais une phrase. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tes premières phrases, c'est les plus importantes dans le message. Après, ils oublient tout. Alors, cette phrase, c'est la suivante. À Lisieux, j'ai une église remplie non pas de chrétiens, mais de disciples. Et là, tout est dit. Il y a très peu de monde à Lisieux, mais ils sont tous des disciples. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous engagés dans la mission. Tous. Tous les participants de cette église sont engagés. C'est quoi un disciple? Hein? Suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. On a parlé de ça hier. Eh bien, ils sont engagés dans la mission du Seigneur, dans cette ville de Lisieux où nous avons implanté une église. Et donc, effectivement, d'autres sont en cours d'implantation, sont déjà liés en recherche pionnière ou post-MIB, c'est-à-dire aux structures de la fédération. Et notre but dans les prochaines années, c'est que ces églises deviennent des églises majeures. Mais aujourd'hui, je veux juste m'attacher à ce texte, effectivement, et vous porter par la grâce de Dieu sa parole. Donc, il y a un PowerPoint qui va s'afficher. Il s'agit ici de reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et la mission des travailleurs sur la slide suivante, c'est effectivement de reconstruire la muraille. Alors, ce chapitre, il décrit le travail de divers groupes qui œuvrent à la reconstruction de la muraille. Il y a des personnes diverses qui sont nommées. Leur domaine de travail est décrit de façon très très précise. La description commence à la porte des brebis, puis bouge de section en section du mur et revient à la porte des brebis. Et en fait, nous allons voir ce matin les motivations diverses des travailleurs sur ce mur. Si beaucoup de ces travailleurs sont zélés, quelques-uns ne participent pas au travail et cela apparaît comme un refus. Mais ce travail était voulu par Dieu et il nous faut donc quelque part apprendre à travailler pour Dieu sans excuse. Et je vais, dans l'amour de Dieu et dans une radicalité assez douce, vous questionner et nous questionner sur notre engagement et surtout sur nos motivations. Est-ce que nous servons vraiment le Seigneur? Est-ce que nous sommes engagés dans sa mission? Est-ce que nous sommes un chrétien ou est-ce que nous sommes un réel, un véritable disciple engagé dans sa mission? Alors, je ne peux pas m'empêcher parce que pour moi, on ne peut pas juste être chrétien et juste participer à un culte le dimanche, même si c'est déjà une bonne base. Mais ensuite, c'est toute notre vie, chacune de nos journées, être un disciple dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit au travail, dans nos familles, principalement dans nos familles d'ailleurs, et puis dans tout ce que Dieu nous appelle à faire. Alors, une toute petite partie théologique, très courte, et puis on entrera dans des choses vraiment pratiques. Les murailles, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Les murailles sont une séparation avec les gens du dehors. Vous savez, les murailles, elles entourent en général et enferment une ville. Il y a une unité administrative avec ses propres lois, ses coutumes, son gouvernement propre à l'intérieur. Et puis les murailles, ça sépare d'éléments étrangers et ça garantit de tout mélange. Quand j'étais petit, moi j'étais passionné par les châteaux forts. J'avais des petits soldats là, puis j'imaginais que le château était attaqué, puis il fallait se dé... Il n'y a que moi qui ai joué aux petits soldats ou il y en a d'autres, non? Ben voilà, vous savez un petit peu plus de moi. Je suis loin de vous là, donc j'essaye de créer une intimité. Les murailles, c'est aussi un moyen de défense contre l'ennemi. Voilà, de repousser les assauts de l'ennemi. Elles servent à la sécurité des habitants de la ville et des citoyens, de ses citoyens. Alors, si on appliquait aux circonstances d'aujourd'hui, je dirais que oui, nous devons travailler sur nos murailles. Et non seulement cette église, mais toutes les églises autour et toutes les églises de Paris et toutes les églises de France, nous travaillons sur nos murailles. L'église, quelque part, devient de plus en plus invisible aux yeux des hommes. Les brèches sont innombrables. Le travail paraît gigantesque et nous pourrions être tentés par l'abattement. Devons-nous abandonner à cet état de destruction cette Église, en général, la grande Église? Si nous ressemblions à Néhémie, je crois que nous nous grouperions véritablement avec les chrétiens motivés, avec ceux qui y croient pour travailler à une unité visible. Vous savez, l'unité spirituelle, on a l'habitude de dire, elle est donnée. C'est l'unité de la foi qui est à construire. Donc ça demande un travail entre nous pour arriver à une certaine unité, une certaine cohérence, pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans quelque chose de précis. Mais bien sûr, Satan lutte contre les chrétiens pour les empêcher de tenir ferme pour Christ. Et s'il peut en abattre quelques-uns, il ne va pas se gêner. Et vous connaissez les techniques de l'ennemi. Ne me mettons pas tout sur lui. Nous avons une responsabilité spirituelle, une responsabilité personnelle aussi, dans le fait d'essayer de rester debout pour lui. Le devoir de chaque serviteur de Dieu, c'est de se séparer de toute forme de mal, individuel ou collectif, moral ou doctrinal, religieux, mondain, charnel et terrestre, tout ceci pour que les chrétiens soient visibles aux yeux du monde et reconnus de celui-ci. Maintenant, si je parle de murailles, il me faut aussi parler de portes. Est-ce que, juste pour m'assurer, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui habite une maison sans porte? Levez la main. Personne. On imagine l'importance des portes et la première chose qu'on fait lorsqu'on va se coucher, en général, c'est que nous fermons la porte et on la ferme à clé. Une porte, c'est important. Eh bien ici, il n'y a plus de porte et l'ennemi savait bien ce qu'il faisait. Nous voyons au verset 13, Néhémie qui sort de nuit. « Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. » Les portes d'une ville sont capitales. À Paris, il y a des portes, n'est-ce pas? Porte d'Auteuil, porte Boulogne, il y a une porte? Je ne sais pas. Je vous laisse décider. Il y a la porte d'Anières, la porte de Clichy, il y a plein de portes aussi. Elles peuvent être, alors dans, pas à Paris, mais les portes dans ces temps-là pouvaient être ouvertes pour laisser entrer et sortir librement les habitants. Elles pouvaient exclure tout élément étranger, coupable, contagieux ou criminel qui y aurait élu domicile. Les portes sont fermées la nuit pour que les citoyens ne quittent pas la ville à l'heure du danger, pour ne rien laisser entrer qui soit contraire aux lois de la cité. Pour empêcher l'introduction des traîtres qui, profitant d'un relâchement de surveillance, pourraient les ouvrir à l'ennemi. Et vous vous rappelez l'histoire du cheval de Troie, n'est-ce pas? Où des hommes sont rentrés à l'intérieur d'un cheval, ils ont pénétré donc dans la ville, et puis quand tout le monde était bien assoupi, ils sont sortis du cheval et ils ont ouvert les portes. La cité de Dieu, elle, l'Église, a les portes par lesquelles essaye de rentrer le monde et ses convoitises, les doctrines de mensonges, les hérésies, les faux frères, et tout ceci, bien sûr, doit être combattu, repoussé. On ne va pas le laisser s'introduire. Mais les portes sont largement ouvertes à tout ce qui est de Dieu, de Christ et de sa parole. Alors aujourd'hui, oui, l'Église peut paraître en ruine, et nous pourrions être découragés. Mais moi, je voudrais plutôt dire, communauté du point du jour, travaillez sur vos propres murailles. Chacun a sa tâche. Et là, il nous faut voir quelle est la tâche de chacun. Et votre ouvrage paraîtra faible et incomplet, c'est pas grave. Et je dirais même, et je le dis souvent, que l'Église, c'est un chantier permanent en réalité, où nous réévaluons en permanence comment avancer, puisque ça bouge, les gens bougent, les leaders bougent, les Églises bougent. Moi, je me réjouis quand même qu'il y a une sorte de renouveau ici. J'ai vu hier qu'il y a beaucoup d'idées, de créativité, mais il y a besoin de structure encore. Il ne faut pas aller trop vite non plus. Mais je crois que, par la grâce de Dieu, ça peut redémarrer. Et j'ai vu une église à Rouen redémarrer depuis 7-8 ans maintenant. Je ne sais plus quelle année je suis arrivé là-bas. Et là-bas aussi, ce sont des disciples qui font bouger l'église. J'aime beaucoup, vous le sentez, quand je parle de ces églises, parce que là, je suis là ce matin. Mais à Rouen, j'ai toute une équipe formée. Ils sont sur le terrain. Il y en a un qui prêche, l'autre qui préside. On a plusieurs responsables de louange. Tout ça, c'est parti de rien. On a tout mis en route par la grâce de Dieu, avec une vocation missionnelle et un désir d'atteindre les perdus dans chacune de nos églises. Alors, c'est vrai que il faut agir. Dieu y connaît toutes nos réalités. Un jour, il substituera un ouvrage à lui dans la Nouvelle Jérusalem, dont il nous est dit que les portes ne seront plus fermées de jour, car il n'y aura plus de nuit. On pourrait lire le texte. Apocalypse 21, il n'y entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Tous ceux qui ont le nom inscrit, n'est-ce pas? Eh bien, vous serez dans cette Jérusalem céleste. Nous nous réjouirons ensemble pour l'éternité de quelque chose qui nous paraît merveilleux. Mais Apocalypse 22, 14, 15 nous dit « Bienheureux ceux qui lavent leurs robes afin qu'ils entrent par les portes de la cité. Dehors les chiens, les magiciens, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et fait le mensonge. » Donc on voit bien que là aussi, tout le monde n'aura pas accès. Allez, on continue, on va aller dans les choses pratiques maintenant. La slide suivante, je l'ai appelée un réveil, parce qu'effectivement, le Seigneur se sert du zèle d'un homme, de Néhémie, pour réveiller presque tout le peuple. Parce que vous êtes d'accord avec moi que si tout le monde se met à travailler, ça ressemble à un réveil quand même. Est-ce que vous imaginez si dans toutes les églises de France, tous les chrétiens étaient actifs? Si tous les chrétiens donnaient la dîme? Si tous les chrétiens étaient engagés dans la mission? Je crois qu'il n'y aurait plus de problème. Enfin, il y en aurait, mais vous imaginez? J'arrive même pas. Si tous les chrétiens donnaient la dîme, on n'aurait plus besoin de problèmes pour tout financer partout. Ça serait extraordinaire. On aurait de l'argent pour. Bon, moi, je ne parle pas trop d'argent en général. Mais le réveil, je disais hier en blaguant, le problème du réveil, c'est qu'on ne sait pas, on sait pas qu'on dort quand on se réveille. Et quand le réveil sonne le matin, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui apprécient le son du réveil. Est-ce que je peux savoir, mais c'est juste pour moi, je ne le répéterai pas ailleurs. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une deuxième et une troisième sonnerie programmée? Levez la main. C'est le temps de confesser nos péchés. Ah, il y en a quand même trois ou quatre. Ouais. C'est dur de se lever, hein. Parce que nos chairs, elles aiment bien quand même finalement se relâcher et tout ça. Et on n'aime pas le son de Dieu. Et moi, je me pose souvent la question, et je la dis à Dieu, si je m'endors, je veux que tu me réveilles. Parce que si je dors, c'est que je ne le sais pas en réalité. Il faut que nous prenions conscience qu'en tant que disciples de Christ, nous devons rester réveillés tout le temps, que nous devons rester engagés dans sa mission. Alors là, oui, il y avait diverses sortes de travailleurs, et on va voir dans le texte qu'il y avait les zélés, il y avait les tièdes, et puis il y avait les rebelles qui sont hostiles. Mais extérieurement et par profession de foi, ils sont tous en train de travailler comme bâtisseurs sur la muraille. Je trouve ça extraordinaire. Il s'agissait d'un réveil tel que seul l'Esprit de Dieu peut en produire quand on voit que vraiment tout le monde se met au travail, ou presque. Tout le monde, ou presque. Cela montre qu'ils étaient en accord, en tout cas, avec une même pensée de reconstruire la muraille. Et ça, c'était un objectif. C'est important, mes amis, d'avoir un objectif. Leur objectif à eux, c'était du Seigneur, en tout cas, c'est de reconstruire la muraille. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu prend note de ceux qui le servent. Voyez, verset 20, « Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara une autre portion. » Et puis, « Après lui, Timothée, répare une autre portion. » Et puis, « Après lui, et vous pourriez mettre tous votre prénom. » Et Dieu, en fait, si Jésus était là, il passerait. Et puis, regarderez avec beaucoup de joie ceux qui sont en train de travailler, d'agir pour son royaume. Peu importe ce que vous faites ou la quantité, mais en fonction de vos dons, on va le voir. Et moi, ça me touche que Dieu note. Et vous savez, il observe son peuple avec minutie et il prend note de l'état de leur cœur et du caractère de leur service. Nous avons parlé de la règle des 3 C hier, cœur, caractère, compétence. On va voir qu'ici, il y en a qui ont le cœur, mais il y en a qui l'ont pas. Il y en a qui ont la compétence, mais vous savez, la compétence, c'est moins important. La compétence, c'est les dons. Pour moi, la compétence, c'est moins important que le caractère. Et si quelqu'un a des super dons, mais n'a pas le caractère, je vais pas le libérer. Même pas dans la prophétie, même pas dans n'importe quoi. Parce que ça passe pas au niveau du peuple. Et vraiment, le caractère, c'est quelque chose d'important. Et c'est ce que va nous dire ce texte, et c'est pour ça que je veux exposer les différentes personnes à son service dans ce texte. Il se plaît à reconnaître le zèle qu'il montre pour sa gloire. Dieu aime quand on le sert peu importe la tâche. Et on va voir différents types d'ouvriers et on va commencer avec la slide suivante. Un ouvrier négligent est dans le compromis. Et on va voir la différence entre celui qui s'appelle Eliashib et Sénaham. Alors Eliashib, c'est le premier qui est mentionné, c'est le grand sacrificateur et avec ses frères, les sacrificateurs, ils sont les premiers travailleurs nommés dans ce texte. Alors, ils sont pas les premiers nommés parce que c'est les plus ailés. Ils sont les premiers nommés parce que c'est le sacrificateur. Il représente quelque chose quand même. Il représente quelque part Dieu au milieu des Juifs. Et c'est comme si aujourd'hui, on mettrait par ordre, s'il y a des personnalités, je sais pas moi, des ministres ou des gens connus, puis on descend ensuite. Et donc, il est nommé pour cela en premier, il est dit, verset 1, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils les bâtirent, la porte des brebis, ils la consacrèrent, donc ils font leur boulot, et posèrent les battants, ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. Et puis, il y a une différence entre ce grand sacrificateur et Sénaa au verset 3. Regardez ce qu'il est dit de Sénaa. Et les fils de Sénaa bâtirent la porte des poissons, ils en firent la charpente et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué la différence entre les deux. Le grand sacrificateur et ses frères ont bâti une porte et ont posé des battants, mais ils n'ont pas fait de charpente qui lui aurait donné sa stabilité. Il n'est même pas mentionné qu'il l'ait pourvu de verrous ou de barres. Cette entrée de Jérusalem, donc, n'est pas bien gardée contre ceux qui auraient voulu s'introduire dans la ville. Une énorme négligence de la part d'Eliashib, dont on verra que s'il vous paraissait sympathique au début, il va le devenir moins au fur et à mesure de la prédication, malgré sa position. Il n'était pas aussi vigilant, Eliashib, que les fils de Sénaa. Ils voulaient bien avoir la porte et les bâtons, mais ils ne prennent aucune mesure pour la rendre sûre en cas de besoin, interdire l'accès à l'ennemi. En fait, ils n'étaient pas prêts à renoncer à leur commerce avec l'ennemi, avec le monde, puisqu'Eliashib, on le verra plus tard, faisait du commerce et il était plus intéressé par récupérer le produit financier de toutes ses actions que par bien faire son travail de sacrificateur. Pourquoi cette attitude de relâchement, de désintéressement? En tant que sacrificateur, on aurait attendu d'Eliashib quelque chose de mieux, plus de vérité, moins d'iniquité, qu'il marche dans la paix, dans la droiture, ouais, qu'il soit un exemple, quoi, entre autres. Mais regardons sa situation réelle, ce cher Eliashib. Chapitre 13, versets 4 et 5. Après cela, le grand sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme de blé, du moût et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. On voit ici trois choses, mes amis. D'abord, il était parent lié à Tobija. Quelqu'un se souvient qui était Tobija? La parole est à vous. Vous connaissez un peu le livre de Néhémie? Tobija, dans les chapitres 1 et 2, c'est un des trois adversaires qui vont venir défier Néhémie. Un des trois qui vont, excusez-moi en parlant le français courant, qui vont pourrir la vie de Néhémie. Il aura des ennemis de l'extérieur et des ennemis de l'intérieur. Mais le sacrificateur, c'est lié à un des ennemis du peuple d'Israël, n'est-ce pas, Tobija, qui était, que je me trompe pas, Ammonite, je crois. On va vérifier ça. Oui, Ammonite. Deuxièmement, ce Tobija s'était permis, en l'absence de Néhémie, de lui aménager une chambre dans les parvis du temple. Il prend la pièce qui était réservée pour récupérer les dîmes de ce que je viens de lire, hein, tous les céréales et tout ça, ce qui devait revenir aux lévites et aux sacrificateurs, il supprime cette pièce, donc quelque part il supprime les dîmes, et il installe Tobija au cœur du peuple, enfin là où il ne devrait pas être. Quoi, hein. C'est comme des fois si dans un conseil d'église, on mettrait une personne complètement à côté de la plaque, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne fonctionnerait pas. Et donc, Néhémie, il sait tout cela et il dit dans les versets 6, 7, ben, j'étais pas à Jérusalem quand tout ça, ça a eu lieu, car j'étais retourné auprès du roi, la 32e année du roi Artaxerxès. Ouais, je l'ai bien dit, super. Non, mais cette prédication, il y a des noms, je vous dis pas, hein. Roi de Babylone, à la fin de l'année, j'obtiens du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. Et puis, il nous est dit dans le verset 28 du chapitre 13, un des fils de Yoyada, fils d'Eliashib, voilà, donc un des fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambalat le Horonite. Et voilà encore que dans la famille de ce Eliashib, eh bien, il est lié à ce Sambalat, le Horonite, encore un ennemi du peuple de Dieu. Donc vous voyez que il n'est pas très clair, ce Eliashib. Il avait un cœur partagé. Il donnait l'apparence d'être en accord avec ses frères dans leur effort de reconstruire la muraille. Mais ce travail de séparation ne lui convenait pas, en fait. Il n'aimait pas cette idée. Car il était lié par des liens intimes avec les ennemis d'Israël. On pourrait dire que nous, on n'a pas les ennemis d'Israël, mais on peut être lié avec des choses dans le monde sans même s'en rendre compte, qui nous lient tellement qu'on a du mal à être un chrétien authentique. Je repense à un frère qui était vraiment appelé au ministère. Combien j'ai essayé de le convaincre dans ses jeunes années. Il a préféré, et bien sûr, il faut travailler pour vivre. Mais il avait un travail qui était très bien, mais il s'est mis en tête de réussir professionnellement. Et je ne suis pas contre une réussite professionnelle si Dieu est notre numéro un. C'est pas grave. On peut même devenir riche si Dieu est notre numéro un. Amen. C'est pas grave. C'est même bien. Mais si on donne comme lui toute notre énergie pour une réussite professionnelle et il est passé à côté de l'appel de Dieu, combien de fois j'ai pleuré pour ce frère en disant, mais s'il pouvait réaliser ce qu'il est en train de faire. Maintenant, c'est trop tard. Il va arriver à l'âge de la retraite. Il n'est toujours pas entré dans son appel. Et voyez, pour cet Eliashib, il avait ce cœur partagé, une attitude grave en plus, parce qu'il était grand sacrificateur et qu'il était une source de danger pour le peuple. Alors voyez, pour nous, on pourrait être parfois comme un caméléon, voyez, un pied dans le monde, un pied dans l'église. Laissez-moi vous dire, si c'est notre cas, c'est presque toujours le monde qui gagne à la fin. Presque toujours. Donc nous devons être vigilants. Alors, voyons d'autres, sur la slide suivante, ouvriers indifférents, les técoïtes. Voilà, c'est ma première erreur, c'est pas grave, parce qu'il y en a des noms. Et à côté d'eux, réparèrent les técoïtes, mais les principaux d'entre eux ne plièrent point leur cou au service de leur seigneur. Voyez, on commence à faire le tour de tous ces ouvriers qui travaillent sur la muraille, et on va voir toutes ces situations différentes. Et on voit que là, on a des técoïtes qui, en fait, étaient des serviteurs bien disposés. Ils n'étaient pas tous à côté de la plaque, seulement certains. Parce que nous voyons au verset 27 que ces técoïtes, ils réparèrent ils réparèrent une seconde portion. Et les técoïtes, c'est des gens, on leur demande de faire ça, ils font ça. J'ai parlé d'un frère, Joseph, hier. À ceux qui étaient là. On n'ose rien lui demander, Joseph. Dès qu'il y a un besoin, il l'identifie, il fonce. C'est incroyable. Il va toujours, toujours rendre service. C'est ancré en lui. Il ne peut pas s'empêcher. Il aime tellement l'Église, il aime tellement les chrétiens que dès qu'il identifie un besoin, il fonce. Alors, tant qu'il travaillait, ça se voyait moyennement, mais depuis qu'il est à la retraite, on le voit partout. Mais on ne va pas lui dire non, arrête, parce que c'est comme ça, il le fait vraiment, vraiment par amour. Alors les técoïtes étaient un peu comme ça, mais certains d'entre eux quand même sont dans une attitude d'opposition. Et vous savez, quand il y a un mouvement de l'esprit, on pourrait étudier tous les mouvements de réveil dans l'histoire, il y a en général toujours quelques personnes qui passent à côté. Et ceux qui rentrent pleinement dedans, ben, c'est souvent les pauvres, les méprisés, c'est souvent les gens qui n'ont rien, qui sont prêts à avancer, à suivre le Seigneur. Mais ici, il nous est dit que, en raison, il y a des nobles qui sont en désaccord. Il est dit qu'ils ne plièrent pas leur cou au service du Seigneur. Vous voyez, c'est l'orgueil qui gouvernait leur cœur. Et là aussi, il faut s'interroger vraiment sur l'état de nos cœurs. Un jour, un homme, avec une position sociale très élevée et avec beaucoup d'argent, est arrivé dans une des églises que je servais. Alors tout de suite, je suis allé le voir. Et en plus, il est plus âgé que moi. Donc ça vous donne le cadre. En plus, il fait 1,90 m. Enfin, je ne vais pas trop le décrire parce qu'on ne sait jamais. Vous ne le connaissez pas, il y a peu de chance. Mais... Et je lui dis, voilà, X, c'est son prénom, X, je ne veux pas le dire. Est-ce que, voilà, je sais que tu arrives maintenant, je te connais bien et tout ça. Est-ce que tu es d'accord que je parle dans ta vie, aussi bien que tu peux parler dans la mienne, mais tu as toujours été un chef d'entreprise, un entrepreneur et tout ça. Bon, il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Mais on a quand même eu des tensions, parce qu'il était, tenté de me diriger, en tout cas de me donner des directives sur la façon dont il fallait que l'Église avance. Tout ça parce qu'il avait une grosse dîme. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas. Et on a dû travailler notre relation tous les deux. Ça s'est bien passé pendant les années qu'il était là. Mais voyez, là, ces gens-là ne pouvaient pas se courber. C'est dur de se courber quand on est une responsabilité où on dirige toujours les autres. Et on se retrouve dans une église et on doit quelque part se soumettre aux responsables. Ce n'est pas toujours évident pour certaines personnes. Mais qu'est-ce qui dirige nos cœurs? L'amour de Christ ou une forme d'orgueil qui est là, déguisée, et qui fait qu'on a du mal à se soumettre les uns aux autres. Mais il n'y a rien de plus beau que de se soumettre les uns aux autres. Et moi, je dis toujours, je ne sais pas comment tu présentes, toi, les choses, Timothée, mais je dis, moi, mon rôle en tant que pasteur, ce n'est pas d'être là. Moi, je suis là pour servir l'Église. La pyramide, elle est dans ce sens-là. Ça veut dire que ça amène des souffrances. Il y a des gens, ils peuvent piétiner ce que je fais ou ce que je dis. Mais ce n'est pas grave. Je veux essayer, je dis bien essayer, d'imiter Christ qui est venu comme un serviteur et qui a donné sa vie pour nous. Et ça, je ne le comprendrai jamais. J'ai essayé, j'ai dit à Dieu, donne-moi une révélation de ce que tu as vécu sur la croix. Mais c'est tellement énorme, énorme. Alors, c'est vrai que... ces gens, ils préféraient leur propre importance, voilà, que le travail du Seigneur. Et il y en a quelques-uns, par leur raideur, qui sont passés à côté des bénédictions. Alors, il y en a d'autres sur la slide suivante qui réparent vis-à-vis de leur maison. Ça veut dire quoi? Ça a du sens quand même. Si moi j'avais habité près de la muraille, j'aurais d'abord réparé en face de chez moi. Moi, je trouve que c'est pas bête comme idée. En français courant, je dirais que voilà, c'est une façon aussi, une image pour dire qu'il faut balayer devant sa porte. C'est-à-dire qu'on est là, il y a les familles qui travaillent les unes à côté des autres et qui essayent de se placer sous la protection du Seigneur et en construisant cette muraille, nous nous souvenons que la muraille, c'est l'emblème de la séparation. Que les serviteurs du Seigneur commencent en premier lieu par leur propre maison. Donc c'est l'emblème de se séparer du mal. Et c'est important d'amener et de chercher à amener nos propres familles, bien sûr, à se soumettre à la parole de Dieu. Mais quand je parle de balayer dans nos maisons, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été abîmé souvent dans notre identité, dans notre enfance, c'était mon cas, par beaucoup de choses. Et que si on ne prend pas conscience que nous avons besoin de guérison le long de notre processus d'avancer dans la vie chrétienne, si on ne prend pas conscience que des choses doivent changer, on va le garder à l'intérieur, on va jouer au bon chrétien, et puis ça ne va pas fonctionner, et un jour, ça va casser. Et je veux vraiment vous encourager à l'ouverture, à être ouvert. Et quand une confession est venue, comme tout à l'heure, aller entourer la personne, voir si elle peut être aidée. Peut-être des personnes ne voudront pas être aidées, mais il y en a qui voudront. Et je pense que c'est très important de régler les choses dans nos vies, dans tous les domaines. Quand Dieu a appelé Gédéon, quelle est la première chose qu'il lui a demandé? Vous vous souvenez? Ouais, de détruire les idoles dans sa famille, se débarrasser de l'occultisme et des choses qui étaient là, ambiantes. Moi, j'ai dû faire ça dans ma vie, pas pour ce que moi j'avais fait, mais ce qui avait été fait au niveau des générations précédentes. J'ai dû passer par des phases de guérison assez, et c'est Jeunesse en Mission à l'époque qui m'a aidé, et Jeunesse en Mission qui se réunissait rue de Musset, et puis j'avais eu l'occasion de venir dans ce cinéma à l'époque, enfin dans cette église, pardon, C'était une église. C'est une église ou un cinéma? Vous savez pas, des fois. Non, non, je blague. Je blague. Je sais, oui, c'était une église. C'était une mauvaise blague. Je suis enregistré, au fait. Faut que je fasse attention à ce que je dis. J'ai pas l'habitude. Donc, dans cette église qui était dans un cinéma. La Bible, voilà, on va passer aux certains. Alors, il y en a qui réparent pas vis-à-vis de leur maison. On va voir ça. Et là encore, on reparle de cet Éliashib. Il est étonnant. Voilà, il y en avait qui avaient vraiment travaillé dur. Mais on voit au verset 20 et 21 du chapitre 3. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur. Ouais, il y en a qui ont de l'ardeur au travail du Seigneur. Une autre portion, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Éliashib. Donc ce Baruch, il répare depuis chez lui et puis il va jusque devant la porte d'Éliashib. Et puis ça continue. Après lui, Méremoth, fils d'Uri, fils d'Akot, répara une autre portion depuis la maison d'Éliashib jusqu'à l'extrémité de la maison. Alors là, je me suis trompé de suivante. Enfin, vous lirez le verset dans les détails. Ça veut dire entre autres que Éliashib, il est là et c'est les autres qui réparent son mur, la partie de sa muraille. Lui, il bouge pas du tout, il fait rien. Donc, en apparence, il donne l'impression d'être impliqué dans l'œuvre de Dieu en faisant une porte, et dans les textes qu'on a lus tout à l'heure, il bénit la porte, hein, il fait son travail de sacrificateur, sauf qu'il met pas de verrou, il met pas de bâton, il fait très mal sa porte, mais en plus, il participe pas au travail de la muraille. Et là, ça décrit deux types de croyants. Il y a ceux qui professent la vérité sans la vivre. Ben ça, c'est Éliashib. Il fait son travail, il est chrétien au milieu des chrétiens, en plus c'est un sacrificateur, il fait tout ce qu'il fait, mais en fait dans son cœur il n'est pas du tout engagé dans l'œuvre du Seigneur. Et je crois qu'il faut nous poser la question sincèrement si nous sommes engagés dans l'œuvre du Seigneur. Mais ça, la réponse elle est à chacun. Moi je pose juste la question. On se dit chrétien mais sans être disciple, et ça c'est pas possible pour moi. Et hier, j'ai beaucoup insisté sur la distinction que nous devons être des disciples. Nous n'avons pas le choix. Ce sont les derniers mots que Jésus a dit à ses disciples dans le grand commandement d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Chacun, chacune ici, vous êtes appelés à être engagés dans la mission. Comment? En faisant des disciples. Et tout cela, c'est un tel changement de paradigme par rapport à l'Église que nous connaissons depuis 2000 ans, n'est-ce pas? Où finalement on nous dit, ben, tu viens à l'église les dimanches, viens à la réunion de prière, viens à l'étude biblique, et puis c'est bon, t'es un bon chrétien. C'est un bon début, mais c'est pas suffisant. Disciple à 100%, 7 jours sur 7. Amen. Il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé si j'étais fatigué ce matin. Très honnêtement, non. Tant que je suis dans le royaume, je peux pas être fatigué. J'irai pas au Stade de France ce soir, parce que j'ai pas envie d'aller me fatiguer à aller voir un match. Ça va me fatiguer. Mais pour le Seigneur... J'ai toujours de l'énergie. Allez, Francis, avance. Donc, Éliashib est un exemple de personne, de cette classe de personnes dans ce chapitre-là, voyez. Malgré un cœur indifférent, il était extérieurement engagé par le fait qu'il bâtissait avec ses frères une porte et qu'il la sanctifiait. Mais en même temps, il laissait les autres prendre soin de la muraille vis-à-vis de sa propre maison. Ça me rappelle ce verset du Cantique des Cantiques. Ils m'ont fait gardienne des vignes, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Les autres, par contre, deuxième catégorie, c'est ceux qui sont trop zélés pour veiller sur leur propre maison. Et ils ne se soucient pas du bien-être de l'Église. Et on entend des chrétiens aujourd'hui qui veulent absolument vivre leur vie de façon indépendante. Ils ont compris l'Évangile, ils ont compris qui était Jésus, mais ils ne comprennent pas qui doivent être connectés au corps de Christ. Et nous voyons en Normandie de plus en plus de groupes autonomes. On ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas à qui ils sont rattachés. Ils vivent dans des groupes de maisons souvent. On a les mouvements de Last Reformation du Danemark. On a plein de mouvements comme ça qui se développent. C'est du n'importe quoi. Et ils ne comprennent pas qu'ils font partie d'un corps plus grand, le corps de Christ, constitué de toutes les églises locales, de toutes les personnes converties. Et donc, il y a des gens comme ça qui n'ont pas compris cette réalité. La slide suivante, c'est encourageant pour les filles et pour les femmes. Donc les hommes, vous pouvez faire autre chose en attendant, ou écouter, parce que c'est important quand même. On voit verset 12, « À côté d'eux, réparèrent Shalom, fils d'Alokhchef, chef de la moitié du district de Jérusalem, lui et ses filles. Et là, on voit le zèle de ces jeunes filles, ce papa qui travaille avec ses filles, qui leur donne le droit d'être mentionné dans la Bible. Et je trouve ça très touchant, la façon dont le Seigneur repère chaque personne en train de travailler sur la muraille et les qualifie, ou ne les qualifie pas, mais donne des commentaires sur leur caractère et sur l'état de leur cœur. Et là, nous voyons que ce père et ses filles ont touché le cœur du Seigneur parce qu'ils sont engagés ensemble dans ce travail sur la muraille. Que de récits nous pourrions réciter, nous pourrions parler de Jeanne, la femme de Chuza, de Suzanne et de beaucoup d'autres qui ont assisté le Seigneur de leur bien, de Marthe et Marie, de Phobée. Et là, Phobée, elle est passionnante à étudier, de Priscilla et bien d'autres. Oui, mes sœurs, vous avez vraiment un rôle important à jouer, tout autant que nous, que nous les hommes, je veux dire, dans l'œuvre du Seigneur. Donc ce passage ne donne pas nécessairement ce que l'homme a vu, mais ce que Dieu a vu. Le père et ses filles étaient engagés ensemble dans la réparation du mur et le fait que ce soit mentionné est tout à leur crédit. On avance à des ouvriers avec des talents différents mais fidèles, ça c'est important. Le Meshulam, fils de Béréka, donc lui aussi il répare vis-à-vis de sa demeure, mais lui il a une petite chambre, regardez. Après eux, Anania, verset 30, fils de Shelemia et Hanoum, le sixième fils de Tsalaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Béréka, travailla vis-à-vis de sa chambre. Et je trouve intéressant que ce jeune homme n'avait pas de maison, mais une chambre, seulement un logement. Et quoique le cercle de sa responsabilité soit plus étroit, eh bien, il est trouvé fidèle par rapport à cela. Et j'insiste là-dessus, si tu n'as qu'un talent, tu dois être fidèle par rapport à ce talent. Et si tu en as cinq, tu dois être fidèle par rapport aux cinq que Dieu t'a donnés. On ne maîtrise pas les dons et les talents que Dieu nous donne. C'est lui qui décide, c'est pas nous. La seule chose qu'il nous demande, c'est notre obéissance par rapport au talent qu'il nous donne et si nous sommes fidèles par rapport à cela. Ce jeune homme n'a qu'une chambre, il va réparer par rapport à sa chambre. Alors que, si nous regardons Shalum au verset 15, lui, regardez tout ce qu'il fait. Shalum, fils de Kolodze, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source, il la bâtit, il la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'à 10 degrés qui descendent de la cité de David. Il fait plein de choses. Vous voyez, des fois, on se dit, moi j'aimerais tellement faire comme ce frère ou comme cette sœur, elle fait tellement de choses. Mais Dieu te demande d'être fidèle par rapport au don qu'il t'a donné. Ne te compare pas aux autres. Vous voyez, c'est tellement important. Il ne faut pas qu'on soit confus par rapport à ça. Slide suivante, des ouvriers en groupe et d'autres isolés. J'ai mis longtemps à comprendre parce que moi je suis quelqu'un passionné par le travail en groupe. J'ai des groupes partout, dans toutes les églises du réseau et partout où je vais, j'ai ce besoin de m'associer. Dès que j'étais jeune, pasteur à Paris, nous étions trois pasteurs dans l'église. Nous étions trois couples. Et si je disais quelque chose de mal sur scène, ils me reprenaient le mardi, ils me disaient « Francis, c'était pas top là ». Et on parlait dans la vie les uns des autres et j'aime ça. Et donc, il y a des gens qui travaillent en groupe et d'autres qui préfèrent travailler seuls. Mais notez bien, en groupe ou seuls, ils avaient tous le même objectif, travailler sur la muraille pour l'accomplir. Amen. Et puis, dernière slide, diversité de services. Là aussi, on voit que l'un fait une chose, l'autre une autre, mais tous travaillaient pour le même but. Et ça rappelle la parabole du corps. Nous avons tellement besoin les uns les autres. Vous le savez, cette parabole de Paul, c'est tellement de sagesse là-dedans. Moi, je sais très bien que quand j'ai mal à un pied, je me rends compte l'importance de ce pied. Ceux qui ont eu des rages de dents, c'est tout votre corps qui souffre. Vous savez de quoi je parle. Et en fait, le corps, il est tellement complémentaire. Chaque membre a sa fonction. Et dès que quelque chose ne fonctionne pas, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans le corps de Christ, combien on appauvrit le corps quand on ne met pas les dons que Dieu nous a donnés à disposition de nos frères et sœurs. Nous avons besoin de savoir qui nous sommes Il y a des process pour étudier ça. De savoir quels sont nos dons, quelles sont nos compétences, nos talents, pour pouvoir mieux servir dans son Église. Et puis bien sûr, de laisser Dieu travailler notre caractère, c'est important. Chaque chrétien a sa place que personne d'autre ne peut occuper. Et son propre travail que personne d'autre ne peut faire. La santé et la prospérité de l'Assemblée dépendent de la reconnaissance de ce fait et de la mise en pratique de cette vérité. Alors je termine simplement par quelques questions. Vous pouvez juste les méditer dans vos cœurs. Est-ce que tu travailles sur la muraille? Et j'irais même jusqu'à dire, est-ce que tu attires l'attention de Dieu par ce que tu fais pour son royaume? Se pourrait-il que tu sois négligent comme Eliashib, bien que chrétien, mais ne participant pas à l'œuvre de Dieu? Pourrais-tu être indifférent à l'œuvre du Seigneur comme certains Tekoïtes qui ont été orgueilleux et rebelles? Est-ce que tu es sûr d'avoir balayé devant ta porte? Est-ce que tu t'occupes bien de ta maison, des guérisons peut-être dont tu as besoin? Des choses qui ne vont pas dans ta vie, il n'y a que toi qui le sais peut-être, ou peut-être c'est tellement visible que d'autres le voient. Mais laissez Dieu guérir tout ça, purifier tout ça. Est-ce que tu as du zèle pour l'Évangile, comme ces filles qui réparent avec leur père? Est-ce que tu mets tes talents à la disposition de Dieu en travaillant pour lui, dans l'Église et hors de l'Église? Seul ou en groupe, as-tu trouvé ta place dans l'Église? Quel est ton rôle? Seigneur, merci d'aider cette Église à entrer, alors qu'ils sont en train de travailler leur vision, qu'ils cherchent comment avancer de l'avant pour avoir un impact dans ces lieux. Je prie que chacun prenne vraiment son rôle au sérieux. Parce qu'il y a un potentiel ici, je le sens. Mais Seigneur, que par ta grâce, les choses puissent se structurer, se mettre en cohérence pour donner une envie commune et un désir de toucher les perdus, de voir cette communauté grandir, non pas seulement en quantité, mais en qualité. Que chacun prenne son rôle au sérieux, Seigneur, et que tu bénisses cette communauté au-delà de toute mesure. Sois béni, Seigneur. Amen.
Amen, amen. Merci au pasteur Francis. Et donc j'en profite pour dire que, comme tu l'as dit, ce prêche est enregistré. Donc justement, c'est l'occasion de pouvoir réécouter hein, ce prêche. C'est important. C'est important parce qu'il y a le dimanche où voilà, on prend ce que le Seigneur nous donne, mais c'est important aussi de réécouter au calme chez soi avec sa Bible et de pouvoir méditer sur la parole du dimanche. Donc nous avons un groupe WhatsApp, vous pouvez venir me voir, je peux vous donner un lien pour écouter cet audio. Également, nous le mettons à disposition sur notre